Café ou à Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommet de cette édition du lundi 7 novembre 2022. Le Rwanda accuse la RDC d'avoir violé son espace aérien. Les chefs militaires de l'Éthiopie et du Tigré discutent, eux, de la mise en œuvre de l'accord de paix. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, prévient à la COP27, l'humanité doit choisir entre solidarité et suicide collectif. Ici aux États-Unis, les Américains sont appelés aux urnes demain mardi, 8 novembre, un scrutin périlleux pour les démocrates.
Pour nous, membres de la diaspora, si les élections renversent le peu d'équilibre que nous avons entre l'exécutif et le législatif à Washington DC, et cela aura des répercussions très sérieuses.
C'est la vie d'un Africain de la diaspora, reportage à suivre dans la partie magazine sur le vote des Africains lors des élections américaines. À suivre également dans cette session d'information la Minute Éco, l'ONU dévoile un plan d'action chiffré à plus de 3 milliards de dollars pour contrer les catastrophes et les sports. Un remake de la finale Liverpool-Real Madrid dès les huitièmes de la Ligue des Champions. Bonsoir, bienvenue, on commence le journal. L'armée congolaise a déployé depuis dimanche 2 avions de chasse Sukhoi-25 dans le nord Kivu, où elle est aux prises avec une offensive des rebelles du M23 et l'un des appareils a été accusé dès ce lundi par le Rwanda d'avoir violé son espace aérien, un survol malencontreux d'après Kinshasa. Le point avec Michel Joseph.
Un avion de chasse Sukhoi-25 de la République démocratique du Congo a violé l'espace aérien rwandais à 11h20 ce matin et s'est brièvement posé à l'aéroport de Rubavu dans la province de l'Ouest, a affirmé le gouvernement rwandais dans un communiqué. Aucune action militaire n'a été entreprise par le Rwanda et l'avion est retourné en RDC. Les autorités rwandaises ont protesté contre cette provocation auprès du gouvernement de la RDC qui a reconnu l'incident, a-t-il ajouté. Dans le cadre des vols de reconnaissance effectués par l'armée de RDC, un avion congolais de type Sukhoi-25 non armé a malencontreusement survolé l'espace aérien du Rwanda, a ensuite indiqué Kinshasa dans un communiqué diffusé par le ministère de la Communication. Lundi matin, les deux SU-25 avaient décollé de l'aéroport de Goma pour se diriger vers le territoire de Rutshuru, où le M23 a gagné du terrain ces dernières semaines. Un avion de chasse de l'armée vient de survoler Kiwanja, a témoigné dans la matinée un habitant de cette localité, passé sous contrôle rebelle fin octobre et situé sur la route nationale 2, un axe stratégique desservant Goma.
Des responsables du gouvernement fédéral éthiopien et des rebelles du Tigré sont à Nairobi, au Kenya, pour discuter des modalités du désarmement des troupes rebelles prévues par l'accord de paix signé le 2 novembre à Pretoria. Le point avec Abdourahmane Dia.
Comme le prévoit l'accord, les chefs militaires doivent discuter et élaborer les modalités détaillées de sa mise en œuvre, notamment les questions du désarmement, a rappelé dans un communiqué l'Union africaine, médiateur des pourparlers tenus à Pretoria pendant 9 jours. La réunion doit déboucher aussi sur une feuille de route pour un accès immédiat de l'aide humanitaire et le rétablissement des services dans la région du Tigré, poursuit l'Union africaine. Le maréchal Berhanu Julia, chef d'état-major des armées éthiopiennes, et le général Tesete Worede, commandant en chef des forces rebelles du Tigré, mèneront les discussions. Les dirigeants politiques ont signé l'accord, mais nos chefs militaires vont ouvrir la voie à une mise en œuvre rapide, a assuré à la presse Redouane Hussein, conseiller à la sécurité nationale du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Cet accord signé à Pretoria est censé mettre fin à la guerre qui durait depuis 2 ans dans le nord de l'Éthiopie.
Le département américain du Trésor a annoncé aujourd'hui avoir pris des sanctions contre 4 personnes, membres d'une cellule du groupe État islamique en Afrique du Sud. Selon l'administration américaine, l'Afrique du Sud a pris une importance particulière comme plateforme de transfert de fonds entre la direction du groupe djihadiste et ses affiliés sur l'ensemble du continent. En mai dernier, l'État islamique a officiellement annoncé la création d'une nouvelle province ou wilaya au Mozambique, pays frontalier de l'Afrique du Sud, où un groupe lié à l'organisation est actif depuis 2017. Des centaines de personnes ont rendu hommage aujourd'hui aux 19 morts dans le crash d'un avion qui s'est abîmé dans le lac Victoria à son atterrissage dans la ville de Bukoba, l'une des catastrophes aériennes les plus meurtrières de l'histoire de la Tanzanie. Le premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa et plusieurs ministres ont assisté aujourd'hui avec des centaines de personnes au stade Kaitaba de Bukoba à une cérémonie de prière menée par des religieux musulmans et chrétiens avant la remise des corps des victimes à leurs familles. Des responsables du syndicat des pilotes à l'origine d'une grève qui touche depuis samedi la compagnie Kenya Airways ont été cités à comparaître pour avoir déclenché leur mouvement malgré une décision de justice l'interdisant, a annoncé aujourd'hui un tribunal de Nairobi. Les pilotes grévistes qui représentent 10% des effectifs réclament le rétablissement des cotisations à un fonds de prévoyance ainsi que le versement des salaires impayés durant la pandémie de COVID-19. La suite ce lundi de la COP27, la conférence mondiale sur le climat, qui s'est ouverte hier à Sharm el-Sheikh en Égypte, la question du financement des dégâts inévitables déjà causés par le changement climatique est au menu des discussions. Mouamadou Mfa.
Face au réchauffement et à ses impacts qui s'accélèrent, l'humanité doit coopérer ou périr, a mis en garde le secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres a appelé à mettre en œuvre un pacte pour mettre fin à la dépendance aux énergies fossiles et la construction des centrales à charbon. Il a également appelé à faire plus pour aider les pays les plus vulnérables à faire face aux pertes et dommages déjà subis en raison des tempêtes, inondations, sécheresses et autres événements extrêmes qui se multiplient. Pour sa part, le président français Emmanuel Macron a assuré que l'Europe et la France sont sur la bonne trajectoire pour tenir leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il faut qu'on ait les États-Unis et la Chine qui soient vraiment au rendez-vous de cette bataille, a-t-il estimé. La fondation Bill and Melinda Gates a annoncé une donation de 1,4 milliard de dollars pour aider des agriculteurs en Afrique et en Asie. Cette somme sera distribuée sur 4 ans pour favoriser des innovations leur permettant de mieux résister aux sécheresses, aux canicules et aux inondations extrêmes amplifiées par le changement climatique.
Et une alliance internationale pour la résilience face à la sécheresse a vu le jour en marge de la COP27 sous l'égide du président sénégalais Macky Sall et du chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez. 3 journalistes égyptiennes ont annoncé entamer aujourd'hui une grève de la faim pour réclamer la libération d'Alaa Abdel Fattah, détenu politique en grève de la faim qui ne boit plus depuis l'ouverture dimanche de la COP27. Ces dames réclament la libération de tous les détenus d'opinion qui sont plus de 60 000 en Égypte selon des ONG.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, à J-1 des élections de mi-mandat, le président démocrate Joe Biden et son prédécesseur républicain Donald Trump s'affrontent aujourd'hui par meeting interposé pour le sprint final de la campagne. Davantage avec Jacques Aristide.
L'actuel locataire de la Maison-Blanche anime un dernier meeting aujourd'hui dans le Maryland, état frontalier de la capitale Washington. Joe Biden est d'avis que le scrutin est un choix sur le droit à l'avortement et sur l'avenir de la démocratie en Amérique. Après une campagne acharnée centrée sur l'inflation, les républicains se montrent de plus en plus confiants dans leur chance de priver Joe Biden de ses majorités au Congrès. Mais le président affirme que les démocrates vont déjouer les sondages. Je pense que nous allons gagner vraiment, a-t-il dit. Quelques heures seulement avant l'ouverture des bureaux de vote, Donald Trump se rend quant à lui dans l'état de l'Ohio. Si vous voulez sauver le rêve américain, alors ce mardi, vous devez voter républicain, a-t-il plaidé ce week-end. Les Américains sont appelés aux urnes demain pour renouveler l'ensemble de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Toute une série de postes d'élus locaux qui décident des politiques de leur état en matière d'avortement ou de régulations environnementales notamment, sont également en jeu. Au total, près de 17 milliards de dollars auront été dépensés pour ce scrutin, d'après Open Secrets, un record.
L'Ukraine a reçu ce lundi de nouveaux systèmes occidentaux de défense antiaérienne destinés à contrer les missiles russes qui pleuvent régulièrement sur les villes du pays en provoquant coupures d'eau et d'électricité à l'approche de l'hiver. Après plusieurs séries de frappes russes qui ont laissé des centaines de milliers de personnes sans courant, les autorités de la région de Kiev ont évoqué une situation qui reste tendue pour l'approvisionnement en énergie. Human Rights Watch a accusé ce lundi la Turquie de contribuer à la propagation du choléra dans le nord de la Syrie en réduisant le débit des eaux de l'Euphrate et le régime syrien d'entraver les aides dans les zones sous contrôle kurde. Pour la première fois depuis 2009, le choléra est réapparu début septembre en Syrie, où environ deux tiers des usines de traitement d'eau, la moitié des stations de pompage et un tiers des châteaux d'eau ont été endommagés par 11 ans de guerre, selon l'ONU. Et puis l'artiste et romancière française Claudie Hunziker a remporté aujourd'hui le prix Femina du roman africain français avec Un chien à ma table. Le jury exclusivement féminin a choisi sa lauréate au premier tour par 6-3. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Mouamadou Mfa.
Le syndicat des pilotes de la compagnie aérienne Kenya Airways a lancé samedi une grève qui a provoqué l'annulation des dizaines de vols, affectant des dizaines de milliers de passagers. Les pilotes réclament, entre autres, de meilleures conditions de travail et le paiement des salaires impayés durant la pandémie de COVID-19. Les pilotes n'ont donné aucune indication sur la durée de leur mouvement. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a vanté dimanche soir le projet de gazoduc Nigeria-Maroc qui doit approvisionner l'Afrique de l'Ouest et l'Europe sur fond de vive rivalité avec l'Algérie voisine, premier exportateur africain de gaz naturel. Long de 6000 km, le projet doit traverser 13 pays africains le long de la côte atlantique et doit permettre d'acheminer plus de 5000 milliards de mètres cubes de gaz naturel. L'ONU a dévoilé lundi un plan d'action chiffré à plus de 3 milliards de dollars pour que d'ici à 5 ans, l'ensemble de la population mondiale soit protégée par un réseau d'alerte précoce des catastrophes météo. Selon son secrétaire général Antonio Guterres, qui s'exprimait lors de la COP27 en Égypte, les communautés vulnérables dans des zones sensibles au réchauffement climatique sont prises de court par des désastres climatiques en cascade sans aucun moyen d'alerte préventive.
Place maintenant au sport avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Jean-Roger Pion. Bonsoir à tous.
Tirage de la Ligue des Champions, un remake de la finale Liverpool-Real de Madrid dès les huitièmes. Et puis il y a le choc Paris Saint-Germain-Bayern.
Oui, c'était aujourd'hui à Nyon en Suisse. Ce tirage au sort des huitièmes de finale donc de la Ligue des Champions qui a offert donc deux duels majeurs entre mastodontes européens. Après leur victoire 1-0 la saison dernière devant les Reds au Stade de France près de Paris, les Madrilènes retrouvent déjà les hommes de Jurgen Klopp, absents du chapeau des têtes de série après leur deuxième place en phase de groupe. Le PSG aura la même sensation au sortir de ce tirage, doublé par Benfica au nombre de buts à l'extérieur, le septième critère de départage. Les Parisiens retrouvent dès le huitième de finale le Bayern.
Toujours du football avec la C3, un choc Barça-Manchester United dès les barrages d'accession au huitième.
Oui, ce FC Barcelone-Manchester United, c'est aussi un duel entre deux joueurs, Robert Lewandowski et Cristiano Ronaldo. Renversé en Ligue Europa après une campagne de Ligue des Champions calamiteuse, le Barça défiera Manchester les jeudis 16 et 23 février avec le match retour en Angleterre. Une nouvelle élimination européenne précoce serait un camouflet pour les Catalans et leur entraîneur Xavi, déjà incapable de battre le Bayern Munich et l'Inter Milan en quatre confrontations, mais également défait lors du dernier Classico face au Real Madrid.
Mondial 2022, le Brésil avec Neymar et Dani Alves, mais sans Firmino.
Oui, le Brésil, un des grands favoris de ce mondial, ira au Qatar en quête d'une sixième étoile avec Neymar, grande star de la liste des 26 sélectionnés annoncés par Tite ce lundi, dont fait également partie Dani Alves, âgé de 39 ans, retenu même s'il n'a pas disputé le moindre match depuis 2 mois. Le seul absent, Jean-Roger Bion de Marc, est l'avant-centre de Liverpool, Roberto Firmino, laissé de côté au profit de Gabriel Jesus de Arsenal, qui lui a été rappelé après avoir été absent du dernier rassemblement de la CLSAO.
On termine avec la NBA. Les Cavs de Mitchell roulent sur les Lakers de LeBron James.
Oui, les Cavs de Cleveland ont remporté leur 8e victoire de rang en NBA. C'était hier soir en roulant sur les LA Lakers, toujours au Palo, 114-100, grâce notamment aux 33 points inscrits par Donovan Mitchell. Dans la Cité des Anges, les Cavaliers ont validé plus d'une longue série de victoires depuis 5 ans et avec leur 8-1, continuent de suivre le rythme endiablé des Bucks de Milwaukee, 9-0, en tête de la Conférence Est.
Page de Sport Vieux Afrique, signé Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les élections de mi-mandat ont lieu demain. Ici aux États-Unis, l'issue du scrutin va déterminer si les démocrates vont conserver leur majorité au Congrès ou si les républicains vont prendre le contrôle. Arash Arasabadi de la VOA nous en dit plus. Le récit, Jacques Aristide.
Pour les démocrates, le dynamitage du droit fédéral à l'avortement par la Cour suprême va drainer les électeurs aux urnes malgré l'inflation galopante qui nuit les ménages américains. Le sénateur démocrate Cory Booker lors du programme This Week de la chaîne ABC dimanche.
Même si notre économie connaît des difficultés, les gens se disent, attendez une minute, c'est le parti qui essaie de protéger les syndicats. C'est le parti qui a veillé à ce que nous prenions des mesures pour réduire les coûts des médicaments sur ordonnance et des soins de santé. C'est le parti, en fin de compte, qui essaie de protéger les libertés fondamentales comme le droit de contrôler son propre corps. Je pense que c'est donc un rendez-vous électoral difficile. C'est une élection de mi-mandat, mais je vois toujours une voie pour nous de garder le contrôle du Sénat.
Le centre CART à Atlanta, fondé par l'ancien président Jimmy Carter et son épouse Rosaline, forme des observateurs pour surveiller les élections dans le comté de Fulton, en Géorgie. Dans cet État, le démocrate et pasteur Raphaël Warnock affronte le républicain et ancien joueur de football américain Herschel Walker dans la bataille qualifiée de très serrée pour le Sénat. David Carroll, directeur du programme Démocratie au Centre Carter, lors d'un entretien avec l'Associated Press.
Les Américains commencent à avoir moins confiance dans les élections. Il y a moins de confiance du public. Nous voyons donc l'observation non partisane comme une étape parmi d'autres par différents acteurs en tant qu'observateurs électoraux pour essayer d'apporter plus de compréhension et de confiance par rapport aux processus électoraux.
En Pennsylvanie, la course pour le Sénat entre le lieutenant-gouverneur démocrate John Fetterman et le célèbre docteur Mehmet Oz, le candidat républicain soutenu par Donald Trump, est également décrite comme très serrée. À San Diego, le président Joe Biden a déclaré qu'il était optimiste quant aux chances des démocrates, mais les républicains, eux, voient une victoire qui se profile pour leur parti. Glenn Youngkin, le gouverneur républicain de la Virginie, au cours de l'émission This Week de la chaîne ABC.
Cela va être un signal d'alarme pour le président Biden et j'espère qu'il y répondra, car ce qui s'est passé ces deux dernières années a vraiment causé beaucoup de problèmes en Amérique. J'espère que le président Biden comprendra ce que les Américains vont lui dire ce mardi, c'est-à-dire nous ne sommes pas contents et nous avons besoin d'un programme différent. Et je pense qu'une Chambre de représentants dirigée par les Républicains et un Sénat dirigés par les républicains, vont travailler pour tenir les promesses. Et j'espère que Joe Biden soit attentif.
Le New York Times rapporte que plus de 32 millions de votes ont déjà été exprimés depuis jeudi dernier, dont certains ne peuvent être comptés qu'après la nuit des élections.
Les résultats de ces élections vont déterminer qui du parti républicain ou démocrate va contrôler donc la Chambre des représentants et le Sénat. Quelles sont les attentes des Africains vivant dans la région de Washington? Le reportage de Thierry Kaoré de la VOA à White Plains et Silver Spring dans l'État du Maryland.
Pour la diaspora africaine de la région de Washington, ces élections sont celles de tous les défis. L'économie, l'immigration, l'éducation, les attentes sont nombreuses. Le docteur Mohamed Camara est directeur du département des études africaines de Harvard University. Selon lui, le partenariat entre les États-Unis et l'Afrique dans le domaine de l'éducation pourrait être affecté par le résultat de ces élections.
Pour nous, membres de la diaspora, si les élections renversent le peu d'équilibre que nous avons entre l'exécutif et le législatif à Washington, D.C., et cela aura des répercussions très sérieuses. Beaucoup d'universités américaines, ont des rapports de partenariat avec des universités africaines et puis des gouvernements africains. La dissolution de ce type de rapport de travail va paralyser d'aspects fondamentaux de l'éducation aux États-Unis pour les membres de la diaspora africaine.
Sur le plan économique, les États-Unis connaissent une inflation galopante depuis l'année dernière. Madame Cécile Abba est une ressortissante guinéenne, mère de deux enfants.
Avant, je pouvais dépenser par exemple 300 dollars pour deux semaines, mais actuellement il me faut 600 dollars pour les deux semaines. C'est devenu vraiment c'est très difficile. Donc nous voulons que les prix diminuent parce que le marché est vraiment cher.
Des attentes également dans le processus de traitement des dossiers des immigrants africains. Maître Joseph Mitterrand Fa est avocat.
J'ai déposé une plainte contre le procureur général des États-Unis et toute sa suite, le directeur de USCIS, pour certains dossiers d'asile qui sont en instance en attente d'études depuis, pour certains, 2014 et pour d'autres 2015, plus de 2780 jours au-delà du temps imparti par le Parlement pour décider de ces dossiers, qui est normalement environ 180 jours. Vous comprenez que c'est le plus grand des malaises de tous les immigrants et on verra ou alors on aimerait voir un Parlement qui va accélérer le processus de normalisation de la situation immigrationnelle de tous ceux qui viennent d'ailleurs pour s'installer ici à perpétuelle demeure.
Quel que soit le parti qui va diriger le Sénat ou la Chambre des représentants, les Africains de la diaspora espèrent que leurs aspirations seront prises en compte après ces élections générales du mardi 8 novembre.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, les élections de mi-mandat pour le contrôle du Congrès américain. À deux ans de la fin du mandat de Joe Biden, les démocrates se battent pour conserver leur courte majorité dans les deux chambres, alors que les républicains espèrent une victoire au sortir des élections du 8 novembre. Leur focus, l'inflation galopante et l'immigration à la frontière sud, tandis que les démocrates misent sur des questions comme le droit à l'avortement et ce qu'ils appellent la menace pesant sur la démocratie américaine. Sur les enjeux de ces élections, rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Paul Biya, le président du Cameroun, a passé hier 40 ans au pouvoir. C'est en effet le 6 novembre 1982 qu'il a prêté serment, quelques jours après la démission de son prédécesseur Amadou Ahidjo. Ce 40e anniversaire a donné lieu à de nombreuses festivités organisées par les militants de son parti, le RDPC. Mais le bilan des 40 ans du régime Paul Biya est mitigé, nous dit notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jolenta.
Au lieu dit poste central à Yaoundé, des jeunes gens exposent des vêtements le long d'un mur. On les appelle au Cameroun les vendeurs à la sauvette. Apollinaire Biandeux est l'un de ces débrouillards. Il dit n'avoir tiré aucun profit des 40 ans de Paul Biya au pouvoir.
Les 40 ans d'anniversaire du président, 40 ans de noir, 40 ans de souffrance, nous les jeunes, le bilan est négatif hein, pour nous. Parce que nous, on a un régime, on a été vieillant, on a un régime sans emploi, sans rien. Donc ceux qui profitent peuvent profiter.
Johnson, quant à lui, est un déplacé interne de la crise qui sévit depuis 2016 dans les deux régions anglophones du pays. Le jeune homme de 20 ans ne se réjouit pas non plus des 40 ans du régime du président Paul Biya.
Nous, comme moi, comme un enfant de Bamenda, on ne m'a rien fait. Il y a beaucoup plus de 500 000 enfants là-bas, sans acte de naissance, sans carte d'identité. Je suis parmi eux, je suis un enfant de la rue maintenant.
Hier, de nombreux militants du RDPC ont pris part à un grand meeting à l'esplanade de l'hôtel de Villa Yaoundé. Ils ont célébré les 40 ans de Paul Biya au pouvoir, marqués par de grands progrès, disent-ils.
Il y a la paix au Cameroun. Parce que quand on entend tout ce qui se passe dans les autres pays, nous sommes heureux.
40 ans après, on a vu, il y avait l'histoire du multipartisme. Le président de la République, il nous a conseillé autour. Depuis à notre génération, là, on n'a jamais vécu la CAN, mais on a déjà vécu au Cameroun.
Avant ces 40 ans, même les universités publiques, on connaissait juste Yaoundé 1. 2 n'existait même pas. Maintenant, il y a beaucoup de réalisations parce que maintenant, le président de la République a mis des emplois aux jeunes pour servir. Il y a des concours qui sortent au même moment, à tout moment. Il y a aussi des recrutements.
Pour le secrétaire général, adjoint du comité central du RDPC, Grégoire Wona, les idéaux du président Paul Biya restent d'actualité 40 ans après.
Il y a encore à faire. On nous a reproché des choses. On doit les corriger. Nous devons continuer de travailler dans la voie que le chef de l'État, Paul Biya, a travaillé. Le renouveau se renouvelle par les valeurs qu'il est en train de promouvoir, qui sont des valeurs de démocratie, des valeurs de justice sociale, des valeurs de prospérité, des valeurs éternelles.
Sur les réseaux sociaux, certains hommes politiques se sont aussi prononcés sur cet anniversaire, synonyme de deuil national, a posté sur sa page Facebook Aloïs Parfait-Mvoum, président du Social Democratic Front dans le 4e arrondissement à Yaoundé, un parti de l'opposition. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
L'appel du président congolais Félix Antoine Tshisekedi à la mobilisation pour mettre hors d'état de nuire les rebelles du M23 semble faire son effet dans la province du Nord Kivu. Des centaines de jeunes ont été enrôlés dans l'armée ces derniers jours. La sensibilisation au patriotisme via les réseaux sociaux est également promue par des mouvements citoyens. Le reportage de Zanem Netizaïri, notre correspondant à Goma.
Lundi 7 novembre au matin, plusieurs centaines de jeunes filles et garçons se sont rassemblés à la 34e région militaire de Goma. Ahadi Mosengo et les siens ont décidé de revêtir l'uniforme militaire après l'appel du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi.
Face au M23, nous, les jeunes, avons dû mettre nos efforts en commun pour libérer notre pays. Ici, je me sens prêt à me battre s'ils arrivent à Goma. Je me sens prêt parce que la souffrance est l'un des bons professeurs.
Le discours du président congolais a été salué par plusieurs acteurs de la société civile et des mouvements citoyens. Eric Bonapoua, militant du mouvement pour la nation congolaise, estime que l'appel à la mobilisation est tout ce qui restait au peuple pour parler le même langage.
Jusque là, nous sommes en train de nous mobiliser parce que c'était un appel que nous attendions il y a longtemps. Et voilà, au moins cette fois-ci, le président de la République l'a fait. Et nous sommes en train de mobiliser tous les jeunes, filles et garçons de la province du Nord Kivu, et plus particulièrement de la ville de Goma, qui soient vraiment très mobilisés pourvu que ensemble, nous puissions combattre contre les rebelles du M23.
Dans les réseaux sociaux à Goma, comme ailleurs dans la province, des groupes dits de vigilance ont été créés et des campagnes de sensibilisation à l'enrôlement dans l'armée sont menées. Suzy Kisuki, activiste du groupe de pression Véranda Mutsanga, est parmi les mobilisateurs de première ligne à Goma.
Nous savons beaucoup de pays qui sont impliqués dans cette guerre-là. Ce n'est pas seulement le Rwanda, même l'Ouganda est impliqué. D'ailleurs, je profite à cette occasion-là de dire à notre chef de l'État de mettre fin aussi à l'opération conjointe des Ougandais qui se trouvent à Beni. Parce que moi, je ne vois pas comment l'Ouganda peut vouloir nous combattre au niveau des Rutshuru et qu'il puisse faire semblant qu'il combat pour nous au niveau de Beni. En tout cas, nous sommes préparés et on fera quelque chose. La mobilisation continue pour que tout le monde puisse s'enrôler dans l'armée.
Dans son dernier discours à la nation congolaise vendredi dernier, Félix-Antoine Tshisekedi a insisté sur la mobilisation populaire de la population afin de libérer une partie du pays des mains des agresseurs qui se cacheraient derrière la rébellion du M23. Zanem Netizaïdi, à Goma, pour VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Voilà le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.